Bonjour à tous et bienvenue à l'Institut des Libertés pour un nouveau délit d'opinion. Comme d'habitude, chaque mardi, je suis avec Charles Gave. Bonjour Charles.
Et bonjour.
Alors, aujourd'hui, il y a des semaines où il y a tellement peu d'actualité qu'on ne sait pas trop ce qu'on va dire. Et puis, il y a des semaines où il y en a tellement qu'on ne sait pas non plus trop ce qu'on va dire. Tellement il y a de sujets à piocher parce que, par exemple, je comptais à la base, il y a quelques jours, évoquer cette décision du Conseil constitutionnel. On le fera peut-être pas, on le fera peut-être une prochaine fois, mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, on va parler essentiellement de la révolte des agriculteurs, et puis on va parler aussi de ce qui se passe au Texas, parce que c'est quand même un événement, je pense, historique, et on en parle très très peu en France. J'ai vu extrêmement peu d'articles en français qui traitaient de ce sujet-là.
D'abord, les journalistes français parlent pas tous l'anglais, ce qui est bien triste. Et ensuite, si c'est pas dans le New York Times, ils savent pas quoi dire.
Alors, c'est ça.
Donc, si vous voulez, c'est un peu embêtant, quoi. Ils sont très limités par leur manque de culture, leur manque de connaissance des États-Unis. Il y en a quelques-uns qui connaissent un peu quelque chose. Un garçon comme André Berkoff, d'abord il parle bien anglais, ensuite il connaît bien les États-Unis. Il avait été le premier, je crois, à avoir interviewé Trump de la presse anglo-saxonne, mais. Les autres, c'est un peu le désert des Tartares, quoi.
Ouais, effectivement, parce que premièrement, comme vous l'avez dit, il y a la barrière de la langue, et ensuite il y a la barrière, on va dire, politique, c'est-à-dire que pour la sélection des sources, forcément, ça peut être un peu compliqué. Oui. Si on lit ce qui se passe au Texas, selon, comme vous avez dit, ce que nous raconte le New York Times, en fait, on comprend pas vraiment grand-chose. Il y a une double barrière pour sélectionner l'information correctement. Oui. Premièrement, on va évoquer quand même les agriculteurs, parce que c'est un mouvement qui prend de l'amplification, qui commence déjà aussi à changer un peu. Je trouve qu'il y a une... Alors, comme on l'a dit la semaine dernière, la gauche n'était pas du tout intéressée par cette manifestation.
Enfin, la gauche n'est plus intéressée par le peuple. Ouais. Il faut savoir ça.
Oui, oui.
Et ouvriers, paysans, tout ça, ils savent pas.
Voilà. Mais alors justement, ce qui se passe en ce moment, comme d'habitude, en fait, dès qu'il y a une révolte comme ça, comme c'était le cas d'ailleurs avec les gilets jaunes, on a des gars qui sortent dans la rue, qu'on l'air tout à fait sérieux, qu'on l'air en colère, qui n'ont pas l'habitude de manifester et qui disent on n'en peut plus des normes, on n'en peut plus des taxes, on n'en peut plus de tout ça, l'État nous écrase, etc. Et il suffit d'attendre quelques jours en général pour voir la CGT débarquer, des mouvements de gauche, etc. Dire non, en fait, vous avez rien compris. Ce qui vous écrase, c'est pas du tout les taxes, c'est pas du tout l'État. En fait, ce qui vous écrase, c'est le grand capital. En fait, il y a des gens qui vous prennent votre argent. C'est pour ça que vous êtes pauvre. Donc là, par exemple, en ce moment, il y a une partie du mouvement qui est en train de changer d'aspect, qui est en train de changer de cible aussi. Alors que la semaine dernière, bon, c'est encore le cas, mais la semaine dernière, on ciblait surtout la multiplication des normes, que ce soit au niveau européen ou au niveau français, et justement le poids de l'État dans cette normativité. Aujourd'hui, on commence de plus en plus à cibler les profits de la grande distribution. On commence à dire, en fait, si vous êtes pauvre, c'est à cause de Super U, d'Intermarché, etc. Alors, comment vous voyez ce changement? Est-ce que, à votre avis, ça va se poursuivre? Ou est-ce que c'est un mouvement qui va quand même rester sur des bases assez solides, avec des agriculteurs qui savent ce qu'ils veulent?
Je sais pas, parce que le futur est incertain, comme chacun sait, et faire des prévisions, c'est extrêmement difficile. Mais chaque fois que le peuple essaye de se révolter, le peuple de base, si je veux dire, qu'il s'agisse des ouvriers il y a quelques années dans les communes de la périphérie, ou j'en sais rien, les gilets jaunes, maintenant les paysans, qui sont encore plus loin dans la périphérie, si j'ose dire, on nous ramène toujours le vieux... la sempiternelle... ritournelle que tout ça c'est la faute de ceux qui gagnent de l'argent, alors que si je peux me permettre, on peut dire tout ce qu'on veut de l'État, mais pas qu'il gagne de l'argent.
Oui.
Moi, si on voyait un petit peu, si on faisait la différence entre ceux qui gagnent de l'argent et ceux qui coûtent de l'argent, je crois qu'on pourrait dire aux paysans, ce qui vous empêche de prospérer, c'est ceux qui coûtent de l'argent. Parce que vous ne vous rendez pas compte, mais toutes les taxes que vous payez, c'est pour entretenir tous ces faiseurs de circulaires. Je vous donne un exemple. Ma chère sœur a une maison à côté d'Auch, dans le Gers. Vous savez que la maison est au milieu de la campagne. La prochaine maison doit être à 2 km. Vous voyez,
d'accord.
Et puis il y a il y a la municipalité d'Auch, où il y a des gens qui doivent avoir énormément de travail, hein, qui n'avaient rien de mieux à faire, qui a découvert que leur fosse septique, qui avait été faite il y a 100 ans, n'était pas aux normes. Ce qui n'est pas tellement étonnant, parce que je ne sais pas s'il y avait de normes il y a 100 ans.
Ah oui. Pour faire des fosses septiques.
Pour faire des fosses septiques,
je ne sais pas beaucoup de...
Elle avait dû employer un gars à l'époque, personne ne sait. Et donc, elle a reçu une série de papiers, d'abord combinatoires, voilà. Il faut qu'elle répare tout ça. Et ensuite, en demandant l'âge du capitaine qui avait fait cette autre fosse septique, quand des papiers et tout, et elle ne comprend pas, elle n'est pas plus bête qu'une autre, elle est... Et elle ne comprend pas les papiers. Il y a tellement de trucs à faire qu'elle ne sait même pas ce qu'elle a à faire. Donc, elle va être obligée d'aller voir quelqu'un dans la région pour savoir comment l'aider. Et tout. Donc, je me dis, bon, mais ma sœur, elle a 83 ans, elle a toute sa tête. Enfin, je veux dire, c'est une grande maison. Ça fait 50 ans que ça marche. Vous savez, il y a un vieux truc. Si c'est pas cassé, c'est pas la peine de le réparer.
Ouais, je suis d'accord. Ouais.
Et donc... ils vont pas contaminer la campagne parce qu'il y a personne autour à 1,5 km, donc il faudrait qu'il y ait vraiment des déjections considérables. Donc, vous voyez qu'il y a des gars partout qui ont comme objectif, littéralement, de vous emmerder. Qui envoient des papiers, qui envoient des papiers, qui envoient des papiers. Et je voyais que le code agricole, ou le code de l'agriculture, je sais pas là, avait pris quoi, quelque chose comme 1000 pages dans les 10 dernières années.
Oui, c'est ça, ouais, plus que ça, le code rural en 1965, c'était 755 pages, et c'est plus de 3000 pages aujourd'hui, 3068 pages. Donc, oui, ça a été multiplié par plus de 4.
Mais qu'est-ce qu'il y a dans le code rural? Je veux dire, il faut pas engraisser les oies avec, j'en sais rien, mais je veux dire, 3500 pages de code rural, moi je sais bien, mais. Autrefois, les paysans, leur boulot, c'était de faire de pousser du blé, du maïs ou je sais pas quoi, et pas de lire des papiers. Et donc, ce que me disent les paysans en Gascogne ou dans la région d'Avignon, c'est que maintenant, ils passent 70% de leur temps à remplir des papiers pour toucher des subventions qui leur arrivent en retard.
Ouais.
Et donc, ils sont pris à la gorge. Et donc, on me racontait l'histoire d'un type qui pouvait pas toucher son fermage parce que le paysan avait pas reçu sa subvention. Donc on a une sorte de fou. Donc la terre est louée à un paysan qui ne peut payer le loyer que si la subvention est payée. Mais attendez, c'est une sorte de fou, ça. C'est quand même... Normalement, moi, autrefois, quand j'étais petit, il y avait un fermage. Et en principe, le paysan payait le loyer et se payait lui-même avec le fermage. Mais là, donc ce qui touche, c'est pas suffisant pour payer le fermage. Mais alors, pourquoi est-il fermier? Enfin, je veux dire... On vit dans un monde de fous, quoi. On a mis des règlements partout, des subventions partout, et une chatte, il ne retrouvait pas ses petits, quoi. C'est extraordinaire. Et moi, ça doit stresser les gens de façon épouvantable.
Ouais.
Mais je ne sais pas quoi vous dire, mais il y a aussi autre chose. J'ai écrit un papier, là, lundi, sur les paysans. J'ai regardé le prix de l'hectare en France. Le prix de l'hectare en France, c'est à peu près 5000 euros par hectare, bon... Le prix de l'hectare en Suisse, c'est 30 000. En Hollande, c'est 60 000. Et dans tout le reste de l'Europe, c'est entre 20 et 30 000. Donc, vous dites, donc, 5 000 hectares, 20 000 hectares, mettons, en Belgique à côté, ou j'en sais rien. Donc, l'hectare français, 4 fois moins cher. Pourquoi? Parce qu'il y a un machin qui s'appelle la SAFER. Donc, quand j'étais jeune, encore une fois, les paysans n'avaient pas des retraites flamboyantes, mais... La terre avait beaucoup de valeur, et donc quand ils la vendaient en fin de vie, s'ils n'avaient pas d'enfants qui voulaient suivre, ils vendaient leur terre, et ça leur permettait de vivre confortablement jusqu'à la fin de leur jour.
C'était ça leur retraite, en fait.
C'était ça leur retraite, c'était la valeur de la terre qui montait. Eh bien, aujourd'hui, à 5000, ils ne peuvent pas vivre, donc ça veut dire qu'il y a un organisme en France, qui doit s'appeler la SAFER, je n'ai pas très bien compris comment ça marchait, mais la réalité, c'est qu'ils piquent les trois quarts de la valeur aux paysans, qui ensuite n'ont pas de quoi avoir des retraites, donc il faut leur filer du pognon. Mais on pourrait peut-être arrêter la SAFER, faire monter le prix des terres à 20 000 et puis foutre la paix aux paysans.
Ouais.
Ça me semblerait tellement plus simple.
Ouais.
Ils ont pas besoin, ils toucheraient pas 800 euros par mois. Ils en toucheraient 3 000, puisqu'ils ont revendu leurs terres.
Oui, c'est sûr.
Donc, si vous voulez, il y a eu une captation de la richesse de la paysannerie, une organisation forcée de la paysannerie en leur disant vous ferez du blé, vous ferez du lait, vous ferez des terres. Ils n'ont pas eu le choix. On leur a fait aller vers des grandes machins parce qu'on voulait faire concurrence aux États-Unis une fois de plus, avec, comme si on avait des excès. Ce qui est possible dans la Beauce, mais ce qui n'est pas possible dans le Gers. Et puis ensuite, on se retrouve avec des gars qui sont lourdement endettés, qui n'ont pas une rentabilité suffisante parce qu'ils ne sont pas efficients, et à qui on aurait demandé de faire du foie gras et du cassoulet à des prix élevés. C'est-à-dire que la France avait un avantage inouï, c'est qu'elle faisait des produits qui étaient bons, et on l'a forcé à faire des saloperies en masse pour faire concurrence à des gens, et on a subventionné les saloperies en masse. Mmh. Mais il faut les flinguer. Mmh. On n'a jamais laissé le marché dans l'agriculture.
Ouais.
Jamais.
Oui, effectivement, on dit à chaque fois, il y a toujours des technocrates qui soient à Paris ou à Bruxelles qui décident de comment va se faire l'agriculture. Par exemple, quelque chose d'assez fou, parce que alors on met très souvent, on fait souvent porter le chapeau à l'Union européenne. Par exemple, l'Union européenne, il n'y a pas longtemps, avait interdit le glyphosate. Ce qui était une connerie sans nom, mais l'Union européenne, il n'y a pas longtemps, a réintroduit la possibilité de mettre du glyphosate dans l'agriculture, sauf que cette interdiction, elle est toujours en France. C'est-à-dire que les paysans français ne peuvent pas le faire. Donc là, c'est encore plus contraignant en France que dans le reste de l'Union européenne, ce qui est déjà... c'est une performance en soi. Mais cela dit, c'est pas étonnant parce que il y a un document de France Stratégie qui dévoile les ambitions du gouvernement à l'horizon 2050. Et alors, l'ambition du gouvernement, c'est diviser la consommation de viande par deux, faire baisser les constructions neuves de 85%, et donc diminuer la consommation d'eau de 15%. Donc en fait, le gouvernement dit juste, on va bouffer moins, du coup, en fait, c'est légitime de foutre en l'air l'agriculture.
Donc ça veut dire qu'encore une fois, qu'ils sont complètement mal étudiés. Hein. C'est-à-dire qu'il n'y en a pas assez pour tout le monde. On va organiser, dans le fond, on va tous mourir de faim, de froid et de misère, mais ça va prendre très longtemps.
Ouais.
Au moins, si on doit mourir de froid et de misère, que ça soit vite fait. Non, ils vont nous faire comme sont des masochistes et qu'ils entendent bien vivre longtemps. Ils vont nous faire vivre le plus longtemps possible un état précaire et abominable.
Ouais, c'est ça.
Mais il faut vraiment les envoyer, je sais pas... dans le goulag.
Ouais,
parce que là, ils seraient contents, là.
Ou juste les envoyer à la ferme, ne serait-ce que ça, voir ce que c'est. Je propose, hein.
Oui.
Effectivement, on se souvient, il y a peu, ça devait être en 2021, je crois, en 2022, c'était le Sri Lanka qui s'était mis à agriculture complètement biologique.
Ils avaient fait tous les trucs que leur avaient dit les spécialistes de l'ONU.
Donc en gros, tout ce que l'Union européenne ou ce que la France a envie de faire à l'horizon 2050, le Sri Lanka s'est dit on va le faire d'un seul coup, tout de suite. Et donc agriculture complètement bio, interdiction de tous les produits phytosanitaires, etc. Et en fait, c'est très simple. En quelques mois, l'île a connu la famine. Donc il y a des gens qui ont littéralement dû s'en aller pour pouvoir manger.
Mmh.
Et il y a eu du coup une révolte massive des agriculteurs d'un seul coup parce que juste
le président a été viré à coups de pompe dans le derrière. Oui, je me souviens, ça c'était au palais, je sais plus quoi.
Ouais, mais du coup quelque part la démarche était beaucoup plus honnête parce que là effectivement on marche avec une succession de normes. Mais qui arrive très progressivement et avec une redistribution avec
la grenouille dans le bassin d'eau qu'on fait chauffer.
C'est ça.
On dit pas si c'est vrai, mais on dit que si vous mettez une grenouille dans un bassin d'eau bouillante, elle saute, elle sort tout de suite. Mais si vous la mettez dans de l'eau froide et que vous chauffez doucement, elle reste, elle se fait cuire, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et donc c'est le coup de la grenouille qu'on fait chauffer petit à petit, quoi.
Ouais.
C'est le vieux truc de tous les fonctionnaires, ils savent faire ça avec admirablement de compétences.
C'est un art absolu.
Mais c'est extraordinaire parce qu'on... Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ça fait des années qu'on se plaint partout de ça. On disait il y a 30 000 pages, ou je ne sais plus combien, dans le code du travail, il y en a 300 en Suisse, ou je ne sais plus. Et c'est pas que ça ralentit, ça s'accélère. C'est-à-dire, on a vraiment l'impression que tout ce qu'on peut raconter, il y a une espèce de machine qui est folle, qui fait des circulaires, qui fait des circulaires, qui fait des circulaires. Et personne ne dit, on va arrêter le papier, on va arrêter... Mais je sais pas, il y a un manque de décision politique en disant, les gars, maintenant, vous ne faites plus rien. Plus un papier pendant 6 mois, quoi.
Ouais.
C'est... Je comprends pas que... C'est comme si j'ai vu que pendant que les gars naviguaient partout, foudrage là partout, la Commission européenne négociait avec le Chili un accord de libre-échange agricole, quoi. Mmh. Je me disais... On aurait peut-être pu attendre 15 jours, quoi, oui. Vous voyez ce que je veux dire ? Du point de vue timing, ça
oui,
fait...
Oui, effectivement, oui.
On sent que les types, ils sont ouais. là, dans l'Europe, ils sont au courant de ce que les gens veulent. Mais je trouve que tous ces paysans-là font une erreur considérable. C'est pas à Paris qu'ils doivent venir.
Ah oui ?
Ben non, c'est à Bruxelles. Tous les pays européens devraient aller et coincer Bruxelles pendant 3 mois.
Ouais.
Et là, on verra que ça irait mieux. Parce que Paris, il n'y a plus aucun pouvoir. C'est que, regardez, ils sont tous... on voit bien, ils sont tous incompétents. Bon, mais Bruxelles, ce serait bien si tous les camions allaient bloquer Bruxelles. Mmh. Venant de Hollande, venant de Belgique, ouais. venant d'Allemagne, venant de France...
En plus de ça, c'est dans ce coin-là quand même qu'il y a déjà des agriculteurs qui se sont révoltés. Ça a déjà été le cas, ouais, effectivement, aux Pays-Bas. C'était le cas récemment en Allemagne.
Non, mais bloquer Bruxelles, ça me paraît.
Il y a quelques Belges qui s'y mettent aussi. Donc oui, effectivement, il faudrait le faire. Et d'ailleurs, je crois que c'est devant la Commission européenne ou devant le Parlement, ils ont mis des barbelés. J'ai vu un mec dire sur Twitter, et je trouvais ça très juste, que l'Union Européenne ne voudrait pas mettre ses barbelés à la frontière européenne, mais ils veulent bien les mettre juste devant la Commission quand il y a des manifestations.
C'est toujours pareil, si vous voulez, c'est comme, il faut laisser rentrer tous les étrangers. En France, on le voit, on peut pas, vous avez qu'à voir les dernières décisions du Conseil constitutionnel.
Ouais.
Mais je sais pas si vous avez vu, les barrières qu'a mis Macron autour de l'Élysée, c'est devenu un bunker, ce truc. Donc lui, il trouve qu'on doit laisser rentrer tout le monde, mais pas chez lui.
Oui.
Lui, il a fait des barrières pour empêcher n'importe qui d'arriver. C'est quand même curieux. Donc vous voyez bien que tous ces gars-là, c'est comme Obama aux États-Unis qui s'est fait faire une maison à Washington, ce qui est très curieux pour un ancien président, parce que d'habitude, ils s'en vont de Washington, mais là, il s'est fait faire une très très belle maison à Washington, mais qui est entourée de murs et gardée par des policiers et des chiens, quoi. Mais par ça, il veut que tout le monde vienne de là.
C'est comme toutes les immenses stars d'Hollywood qui sont totalement démocrates et tout. Ils vivent tous dans ce qu'on appelle les gated communities où il y a des très belles rues, hein, très très bien entretenues avec des très belles maisons. Mais pour rentrer, il faut passer un voire deux passages avec des très grosses grilles, des mecs qui font 150 kilos devant.
Non, si vous voulez, on sent bien qu'il y a. Il y a une espèce de... On veut bien parler du peuple, mais il doit rester là-bas, loin, loin.
Ouais.
C'est une espèce de... Ben voilà, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi. Donc, les pauvres paysans, comme disait François... comment ça me plaît le comique, là. Il y avait le pauvre paysan, c'était pas drôle, d'ailleurs. Enfin, oui, il va falloir qu'ils se fassent entendre. Mais ce qu'il y a des crâneurs, c'est qu'il faut qu'ils soient dans la rue qui cassent tout pour qu'on commence à les entendre. Jusque-là, on ne les entend pas.
Tout à fait. Tout à fait. Alors que c'était déjà, on le savait, hein, pour ceux qui voulaient bien le savoir, c'est la profession dans laquelle il y a le plus de suicides.
Oui, 2 suicides par jour. Ouais.
Voilà, 2 suicides par jour. Juste après, c'est les policiers. Donc, oui, c'est quand même une profession qui est
sinistrée,
qui est dans une urgence absolue depuis plusieurs années et il n'y a absolument rien qui est fait. Et après, ce que je trouve dommage, effectivement, c'est que en ce moment, ce soit la CGT, etc., qui se rajoute au mouvement, alors que, en fait, ce problème de surnormativité, c'est pas un domaine qui est uniquement propre à l'agriculture. C'est plus rageant peut-être quand c'est en rapport à l'agriculture, parce que c'est des mecs qui n'ont jamais foutu les pieds dans une à la campagne qui décident de comment on va cultiver des cerises. Effectivement, le gap entre ceux qui font la loi et ceux qui doivent l'exécuter est absolument énorme. Mais il y a plein de professions aussi dans lesquelles la surnormativité tue absolument.
Tout ce qui est commerce, tout ce qui est artisanat, c'est...
Ouais.
Mais c'est vraiment la phrase de Pompidou, mais cessez d'emmerder les Français, quoi. Mais ils ont pas de... C'est ça. Et ce qui m'a rassuré, si vous voulez, c'est que vous savez que de temps en temps, il m'arrive de dire du mal de l'inspection des finances,
ouais,
qui est le sommet de cette administration normative. Et ce qui m'a fait plaisir, c'est que dans tous les nouveaux postes ministériels, si vous voulez, de le maire, de tout ça, vous avez des inspecteurs des finances qui contrôlent tout. Donc vous savez que ça va s'améliorer, parce que le resserrement de l'inspection des finances sur l'administration française est en train de devenir gigantesque. C'est-à-dire que comme ils ratent tout, ils se disent on rate tout parce qu'on ne contrôle pas assez. Et comme ils ne contrôlent pas assez, ils veulent que ce soit eux-mêmes qui contrôlent. Donc ils ont mis des inspecteurs des finances chez le maire. Partout. Donc, ils bloquent tout aujourd'hui. Toute l'administration française est contrôlée, les postes les plus importants, par des inspecteurs des finances. Vous pouvez aller regarder la nomination, c'est à mourir de rire. Ancien directeur du Trésor, enfin bref, ils y sont tous. Et donc, vous vous dites, ils ont tout compris. Vous savez que le coinçage administratif avec ces gars-là va augmenter. Mmh. Vous le savez déjà. Donc, tout ce que les gens racontent aujourd'hui, ils n'en ont rien à cirer. Mmh. C'est voilà, c'est comme ça, c'est la France. Vous avez une France de l'obéissance et une France de la compétence, et la France de la compétence est en train de devenir la France de la résistance. Donc vous avez, si j'ose dire, je suis pas méchant, vous avez d'un côté les pétainistes qui obéissent, et de l'autre côté les gaullistes qui résistent. Eh bien, aujourd'hui, les paysans, ils sont tous gaullistes.
Ouais.
Et l'inspection des finances, ils sont tous pétainistes.
On voit bien que c'est... c'est quand même des manifestations qui n'ont pas grand-chose avec ce qu'on voit d'habitude.
C'est des gens qui crèvent de la
CGT. C'est des mecs, c'est des mecs avec des gueules d'un autre siècle. Ils ont des accents pas possibles. Ils n'ont pas peur d'avoir les mains sales.
Mais surtout, ils ont des mains.
Ils ont des mains absolument énormes. Et sympathiques comme tout. J'ai même vu une vidéo où il y avait un prêtre qui était en train de bénir des tracteurs qui passaient sur la route. Je me dis, ah oui, c'est sûr, c'est pas une manif de la CGT qu'on a vu ça depuis au moins 60 ans.
Hein. Autrefois, les prêtres bénissaient les bateaux qui partaient, bénissaient les enfants qui allaient à l'école, bénissaient, mais maintenant...
Bah là, c'est les tracteurs.
Ça fait plaisir de voir qu'il y a encore quelques paysans qui demandent à se faire bénir, c'est bien.
Ouais, c'est ça. Je me pose aussi une question, parce que même à droite, il y a un réflexe
à droite,
un peu...
Où c'est à droite? Parlez-moi de la droite, dites-moi un petit peu qui est à droite aujourd'hui en France.
Disons venant, alors même de certains LR, mais je pense
LR,
surtout...
Mais c'est pas à droite, LR. C'est dans le marais le plus pestilentiel, il y a rien. Madame Dati, non, elle était à droite?
Ouais, je sais pas.
Je sais pas, elle était au LR, non?
Oui, elle était au LR, oui.
Donc c'est le parti du prochain traître, allez.
Ouais.
C'est là où sont tous les hommes. Les prochains traîtres, ils sont chez le OLR.
Ouais, oui, mais c'est un bon réservoir, c'est sûr.
C'est un réservoir de traîtres, voilà, ouais. C'est ça.
Et pas que chez LR, mais...
Il y en a partout, des traîtres.
Je voulais parler de l'analyse un peu aussi que faisait l'essentiel des députés du RN, à savoir que, en fait, le problème avec tout ça... C'est la libre circulation, c'est le marché libre, c'est-à-dire la mondialisation, c'est-à-dire que le problème, c'est que on importe de la viande qui vient de partout dans le monde. On parle souvent des poulets ukrainiens, etc. Qu'est-ce que vous pensez de cette analyse-là? Est-ce que le problème, c'est la mise en concurrence de l'agriculture française avec l'agriculture du monde, ou est-ce que c'est juste le deux poids deux mesures par rapport aux normes, c'est-à-dire que ce qu'on impose aux agriculteurs français?
Non, c'est une question. Vous avez, allez, quand vous regardez l'agriculture, quand vous regardez les produits agricoles, la bouffe et tout ça, vous avez deux sortes de produits. Vous avez les produits pas chers, ouais, qui sont faits et qui sont pas bons aussi, mais oui, enfin bref, vous les connaissez, quoi.
Tout à fait.
Et vous avez les produits qui sont chers, bons, de qualité. Par exemple, si vous allez dans une très bonne boucherie, la viande sera meilleure que si vous allez au carrefour du coin. Donc, ce qui s'est passé depuis 50 ans, c'est que la France avait une agriculture de qualité et de proximité. C'est-à-dire qu'elle vendait aux gens qui étaient autour d'elle. Ce qui est toujours le cas en Italie, d'ailleurs. Ils n'ont pas les mêmes problèmes, parce qu'il n'y a pas les grandes distributions. Et ce qui s'est passé, c'est que toutes les subventions, tout ça, ont été aux produits pas chers et de médiocre qualité pour essayer de faire concurrence à ces trucs qui arrivaient du Chili, de l'Ukraine, etc. Donc, on a forcé le peuple français, le peuple paysan français, à faire de la saloperie pour être concurrentiel avec des gens qui faisaient de la saloperie naturellement. Si on leur avait foutu la paix, ce que font certains d'entre eux d'ailleurs, ils auraient été vers le haut pour faire des trucs de qualité, qu'ils auraient vendu cher, ils en auraient peu, et ils auraient vendu cher et peu au monde entier. C'est un peu ce qui s'est passé dans le vin. Ouais. Dans le vin où on n'a pas intervenu, il y a 40 ans ou 50 ans, tout ce qu'on faisait dans la région de Nîmes et de Montpellier comme vin, c'était dégueulasse. C'était fait pour l'armée française, c'était pas buvable. Et puis à partir du moment où l'armée française a pu acheter, ils ont dû se démerder, ils ont commencé à faire du bon vin. Maintenant, il y a des costières de Nîmes qui se vendent très bien partout dans le monde. Donc, encore une fois, on a subventionné la médiocrité pour essayer d'être concurrentiel à l'international. Mmh. C'est exactement le contraire de ce qu'il fallait faire. Donc, oui, les gens ont raison de dire qu'en effet, il y a des types qui nous subventionnent, qui subventionnent encore plus, comme le poulet dégueulasse qui vient d'Ukraine. Mais la question, c'est pourquoi fait-on du poulet dégueulasse? Vous avez déjà, moi je me souviens quand j'ai, c'est pareil, toujours, mais il y a quelques années, quand j'étais dans le Gers enfant, on bouffait du poulet. Mmh. Mais les poulets, ils avaient des pattes, je peux vous dire, des pattes robustes, longues comme ça, on sentait qu'ils avaient couru partout, quoi.
Ouais.
Et puis, c'était de la viande. C'était costaud, quoi.
Ouais.
Fallait mâcher.
Oui, les poulets d'il y a 60 ans, c'était. Alors, ils étaient. Le truc, c'est forcément, ça fait plus de profit d'avoir des poulets qui sont un peu plus dodus, qui pèsent deux fois plus.
Mais c'est pas de goût. Et puis ensuite, voilà. Et donc, ben voilà, on a transformé l'agriculture française en. On l'a forcé littéralement par les subventions à faire de la merde. À la place qu'on aurait dû faire, c'était détaxer tout ce qui était de bonne qualité pour que le prix, pour qu'il puisse aller vers les trucs de bonne qualité. C'est comme si, ça s'est passé un petit peu dans le textile, si vous voulez, où on a subventionné les textiles. Il y a plus Boussac, mais il y a Saint-Laurent, vous voyez, si vous voulez. Donc, aujourd'hui, ce qu'il fallait faire, c'est aller vers la tisanat, pas aller vers l'industrie. L'agriculture, c'est pas une industrie, c'est un artisanat, quoi. Une autre histoire idiote, c'est dans le Gers, il y avait une dame qu'on aimait beaucoup, paysanne, qui faisait des foie gras admirables. Donc on achetait nos foie gras chez elle. Inutile de vous dire qu'il y avait. C'était au marché noir, vous voyez, il n'y avait pas de TV. Oui, je veux dire, c'est parce que la dame, elle faisait ça. Et puis, je sais pas, l'administration s'en est rendue compte et elle lui a interdit de faire du foie gras parce qu'il n'était pas conforme aux normes européennes pour la. Donc maintenant, je suis obligé d'acheter du foie gras, je ne sais plus où, qui est dégueulasse. À la place d'acheter le foie gras malsain, mais excellent, qui était fait par cette femme. Quoi. Mmh. Donc, cette rage de l'homogénéisation, de l'harmonisation, de « il faut que vous fassiez du foie gras qui est dégueulasse, avec des poulets, des canards que vous ne connaissez pas ». Au moins, quand j'étais un enfant, les canards, on les connaissait, quoi.
Ouais.
On avait des relations personnelles avec le canard. C'était pas. Et d'ailleurs, on me demandait parfois de choisir le canard qu'on allait avoir pour essayer de trouver un foie gras. Et il n'y avait pas un moyen de savoir s'il avait un gros foie ou s'il avait un petit foie, ce salopard.
Ouais.
On ne savait pas.
Ouais.
Donc c'était le tirage au sort. S'il avait un gros foie, vous aviez gagné. S'il avait un truc comme ça, vous disiez, bon, bah, et vous l'aviez payé pareil. Hein.
Ouais.
Donc je voulais dire, il y avait toute une espèce de relation avec les gens qui faisaient des foies, il y avait le marché au foie qui était à Fleurance, je ne sais pas où on y allait, on regardait les foie gras. Il y avait un gars qui faisait du cassoulet à Carbone. Et je me souviens, ben, apparemment, il n'avait pas éteint le truc qu'il avait sur son cassoulet depuis 20 ans, donc il rajoutait des trucs depuis 20 ans dans sa marmite. C'était très, très bon.
Ouais. Mais c'est sûr que l'agriculture, ça n'a rien à voir avec l'homogénéisation, au contraire.
Mais non!
Au contraire, surtout l'agriculture française, elle se distingue parce que, bah, précisément, il n'y a pas juste une agriculture française.
Et puis vous êtes elle est différente.
Voilà, c'est ça.
Le plat du jour est différent. Vous pouvez pas de la même façon. Donc, ce qui est admirable en France, c'est que l'architecture change tous les 30 km, ouais. La bouffe change tous les 30 km. Vous faites 30 km, vous avez des blonds yeux bleus, puis là, vous avez des petits noirs pieux. Enfin, je veux dire, c'est. Donc, c'est un pays qui est immensément varié. Mmh. Et à partir de ça, on avait fait. Une cuisine immensément variée, et on nous en a fait, on nous a transformé tout ça en McDonald's. Ouais. Vous dites, mais ils ont du talent. Quel talent ils ont pour enlever le génie de ce peuple. Pour en faire, encore une fois, des gens qui... Et en plus, je suis persuadé que les paysans, quand ils font des saloperies, ils sont malheureux. Parce qu'ils n'aiment pas faire des saloperies. C'est horrible, ouais, de faire des saloperies. Ouais. De faire un truc dont vous savez que c'est pas bon. C'est dégueulasse.
Ouais.
Mais c'est horrible.
Effectivement. Mais après, est-ce qu'à un certain degré, les agriculteurs aussi, enfin, faut se rendre compte aussi de ce que veut dire être agriculteur. Il y a 200 ans, un agriculteur, ça nourrissait une personne et demie à peu près, un peu plus. Aujourd'hui, un agriculteur doit nourrir en moyenne plus de 30 personnes. Est-ce qu'il n'est pas obligé aussi,
oui, par exemple... Oui, parce qu'on a remplacé les 25 personnes, on les a remplacées par des machines, donc ça c'est pas... Oui. On a remplacé des bras par des machines, donc on...
Oui, mais je veux dire, forcément, un agriculteur, il peut plus avoir juste un poulailler, il a forcément des structures assez, assez grosses, c'est-à-dire que, par exemple, hier, je regardais, parce que j'avais pris une, j'avais pris un blanc de dinde, le Gaulois, donc le Gaulois, tout est fait en France, etc. Et alors, sur les étiquettes des trucs le Gaulois, ils mettent le nom du mec dont on a pris la dinde. Donc je tape son nom, j'essaye de trouver à peu près où il est, je trouve, je vois plusieurs articles qui parlent de ce gars dans de la presse locale bretonne, etc. Et je vois qu'il essaye d'expliquer ce qu'il a fait avec son élevage de dinde.
C'était pas un Gaulois, il était breton.
Alors non, oui, mais enfin, Gaulois, on va dire Gaulois au sens large.
Quoi. Parce que Breton, c'est des Celtes, hein, et oh.
Oui, enfin,
c'est pas des Gaulois.
Astérix, hein. son village, il est en Bretagne. Hein.
Ouais, quelque part par là-bas. Ouais, ouais, je suis pas sûr, d'ailleurs, je sais pas s'il était vrai Breton, celui-là.
Ouais, je sais pas. Enfin bref, le mec était Breton, il devait être je crois qu'il était en Ille-et-Vilaine, et il expliquait, voilà, il y avait des photos de son élevage de dinde, et alors il expliquait que voilà, il avait fait rehausser le toit de son machin pour qu'il y ait plus de lumière naturelle, que les dindes, elles dormaient très bien parce qu'elles avaient 8 heures sans lumière, et que le matin, il allumait progressivement la lumière pour avoir un réveil en douceur, etc.
C'est bien, ça.
Voilà, c'est gentil, c'est pour le bien-être animal, etc. Tout ça, c'est très bien, et ça fait de la dinde de qualité. En effet, j'approuve la qualité de la dinde de Monsieur Rousseau, puisque c'était son nom. Et voilà, mais je trouvais ça très bien, mais c'est vrai que ça faisait industriel.
Regardez, on a fait le même coup aux paysans, on leur a dit, vous allez bouffer, vous allez faire des trucs écolo, et vous verrez, ça se vendra beaucoup plus cher, et vous aurez des marges.
Ouais.
Ça se vend pas du tout, parce que les Français, il y a une contradiction extraordinaire, les Français, le niveau de vie baisse sans arrêt, on en a souvent parlé. Donc ils vont aller vers la bouffe de moins en moins chère.
Oui.
Donc ils vont pas se payer des trucs écolo, si vous voulez, c'est à l'Élysée qu'on fait des trucs écolo, parce qu'on n'a pas le problème
de
coût.
Oui, c'est dans le 3e arrondissement.
Donc vous pouvez pas à la fois appauvrir la population et dire que les marges des...
Ou alors,
les gens sont forcés d'aller vers la merde.
Ou alors, comme dit le rapport de France Stratégie, on fait diminuer la quantité de viande consommée par les Français. C'est-à-dire qu'on dit...
c'est ce qu'ils ont essayé de faire aussi en Hollande, etc.
Vous allez consommer plus cher, mais vous allez consommer beaucoup moins, du coup. C'est une manière aussi de réguler...
De réguler quoi?
Réguler la consommation, on dit.
Pourquoi vous voulez réguler la consommation de
viande? Moi, je veux pas le faire.
Non, mais je veux dire, ces types, ils veulent réguler la consommation de viande, puis ensuite, ils vont réguler la consommation d'haricots verts.
Oui,
puis ensuite, mais arrêtez, quoi. Ils ont pas à réguler la bouffe.
Moi, je compte absolument pas réguler ma consommation de dinde ou de viande rouge.
Non, ce qu'il faut, vous savez, c'est cette rage de réguler, de dire vous bouffez trop de viande, vous bouffez trop de... Mais je fais ce que je veux, et puis je vous emmerde.
Oui, enfin, quand je vois aussi l'état des gens qui me demandent de consommer moins, à chaque fois, ils sont comme ça, ils font 60 kilos.
Oui, il y en a qu'un qui me demande pas ça, c'est M. Larquier, là, le patron du Sénat. Oui, lui, là, il a pas l'air d'avoir des problèmes de fin de mois non plus.
Non,
quand vous regardez ses tables, j'ai bouffé deux fois au Sénat, j'avais été invité par des sénateurs.
Ouais.
Ben, la table est très bien et les vins sont très bons. Je le recommande aux Français de base. Essayez de vous faire inviter au Sénat, ils se moquent pas de vous, là.
Effectivement, oui.
À l'Assemblée nationale, c'est nul, mais le Sénat, c'est quand même pas mal.
Je suis d'accord, effectivement.
On devrait faire l'affaire, la politique agricole commune de l'Europe par les sénateurs français.
Ouais.
Là, je suis sûr qu'on aurait des trucs intéressants.
Gérard Larcher, c'est un mec, il connaît la campagne, c'est un habitué de la chasse, etc. Enfin,
vous savez que c'est toujours lui qui a la couronne... au moment du tirage des fèves, vous savez pourquoi? Oui,
c'est parce qu'il prend toute la...
Il bouffe toute la tarte, oui. Ouais. Il bouffe toute la... C'est pour ça que...
C'est une méthode efficace
pour avoir la couronne à chaque fois.
Ouais, effectivement.
Voilà. Enfin, tout ça, c'est des bêtises, mais ça veut dire... Cessez de faire des réglementations par des gens qui sont des psychorigides. La façon dont vous vivez, si vous voulez vivre comme des rats... Bouffer des insectes, allez-y, amusez-vous, c'est pas mon problème.
Oui,
mais ne nous forcez pas à le faire. Quoi.
Oui, je suis tout à fait d'accord. Et pour terminer avec ce sujet, surtout en rapport avec la question de l'importation, du protectionnisme, etc., je voulais citer cet exemple en Suisse, comme d'habitude, hein, c'est en Suisse qu'on fait les meilleures solutions. C'était sur la production de mâches, donc de salades en Suisse. En gros, il y a une espèce de coopérative agricole qui transmet les chiffres de ses productions à l'administration suisse en lui disant, voilà, cette année, on a récolté tant. Donc, tous les agriculteurs donnent leurs chiffres à la coopérative qui transmet à l'administration. Et l'administration évalue quelle va être la demande. Donc la demande de salade, a priori, elle change pas énormément. En gros, c'est très simple. Si les agriculteurs suisses ont produit davantage que ce que va être la demande, à ce moment-là, on taxe toutes les importations. Il n'y a pas besoin de plus de salade en Suisse, donc on taxe tout. On exporte le surplus, il n'y a pas de problème. Et à l'inverse, si les agriculteurs suisses n'ont pas fait assez de salade pour toute la population suisse, et bien à ce moment-là, on enlève toutes les taxes, on fait rentrer la salade de l'extérieur. Et donc c'est un protectionnisme, mais uniquement lorsque les agriculteurs ont rempli leur quota par rapport à la consommation de salade.
C'est-à-dire on part du prix de marché et on s'ajuste en conséquence. Quoi. Voilà,
exactement.
C'est toujours pareil. Mais les Suisses, ils sont toujours pareils, si vous voulez. Ils sont... Ils trouvent des solutions pratiques. Et ce qui m'amuse, c'est qu'il y a quelques années, il y avait une commission d'enquête du Sénat français qui avait été en Suisse et qui expliquait gravement, mais ce n'est pas des blagues, ça m'a été raconté par des Suisses, hein, qui expliquait gravement comment il fallait gérer l'État suisse parce que l'État suisse ne dépensait pas assez d'argent pour le bien-être de la population. Donc les Suisses écoutaient avec beaucoup d'intérêt et se disaient... Mais, c'est français quand même. Ils venaient pas voir pourquoi la Suisse marchait.
Oui.
Non, ils venaient avec des solutions pour améliorer la Suisse, quoi.
Oui.
Ils étaient fiers que tout comme tout. Hein.
Qu'est-ce qu'on va faire de ces gens, enfin,
qu'est-ce qu'on va faire de ces gens, je sais pas.
Les mecs détruisent leur propre pays, ensuite ils vont dans le pays d'à côté qui fonctionne très bien pour dire
comment... Vous avez Mélenchon qui fait ça parfaitement. Regardez, par exemple, aujourd'hui, il y a 7 millions de Vénézuéliens qui se sont barrés. Qui mourrait de faim au Venezuela. Et puis après ça, monsieur, comment il s'appelle, je sais plus comment il s'appelle, le Venezuelan de service, là. Et ben, lui, il a décidé qu'il allait interdire à tous les autres gens de se présenter aux élections. Donc, c'est des élections contestées, mais où il y aura qu'un candidat, c'est lui, quoi.
Ouais.
Et monsieur Mélenchon, on n'entend pas parler sur le Venezuela. On n'entend pas parler sur Cuba. Il vient nous expliquer ici ce que le Venezuela a fait. Donc, si vous voulez, c'est tous des cornions, quoi.
Oui, effectivement. Voilà pour le volet agriculture.
Foutez la paix aux paysans et laissez-les faire des bons produits.
Et foutez la paix aux Français de manière générale et ça se passera très bien. De toute façon, les Français, ils savent s'en sortir quand on leur met pas des bâtons dans les roues. Les États-Unis, ce qui se passe aux États-Unis est absolument dingue. Donc, alors si vous n'êtes pas au courant déjà, en gros, c'est assez simple, hein, c'est la question de la frontière et de l'immigration illégale. C'est-à-dire que l'administration Biden veut absolument empêcher le Texas de contrôler sa frontière. Donc le Texas.
Mais ça fait un an et demi, deux ans depuis qu'il est là, qu'il laisse rentrer tout le monde. Donc il y a eu plusieurs centaines de milliers de Sud-Américains, etc., qui sont rentrés.
Alors c'est très simple, c'est 6 millions de personnes. Depuis le début du mandat de Biden, c'est 6 bon. Millions d'immigrés illégaux, c'est-à-dire plus que sur les 3 mandats présidentiels précédents, donc sur 12 ans quand même, donc sur les 2 mandats Obama et sur le mandat de Trump. 6 millions de personnes, c'est juste absolument énorme. C'est, comme population, c'est plus gros que 33 États américains. Il y a 33 États américains qui n'ont pas une population de 6 millions de personnes. Greg Abbott, donc le gouverneur du Texas, lui, il est toujours en train de faire construire le mur à la frontière du Texas.
Vous savez que Trump voulait faire un mur et que Biden l'a arrêté dès qu'il est arrivé. Voilà. Il a vendu tout l'acier qui était là-dedans, il a tout fait.
Exactement.
Donc il a empêché, il a fait exactement comme en France, si vous voulez. Il dit, on va laisser rentrer tout le monde parce que c'est un des droits de l'homme de venir là où ils ont envie d'aller. Chacun veut envie d'aller. Oui, c'est un droit de l'homme, mais à ce moment-là, si vous voulez...
Et il utilise de l'argent aussi qui est normalement alloué à la protection de la frontière américaine pour justement accueillir en fait tous ces migrants illégaux et pour les mettre dans une espèce de camp d'accueil dans lesquels ils sont pas particulièrement heureux, mais ils sont dans le territoire américain, quoi. Et puis après, ils partent, je sais pas où exactement, dans plusieurs États américains. Et le gouverneur du Texas, il a dit non, moi ça va pas se passer comme ça, moi je vais garder ma frontière. Et Biden essaye de poursuivre du coup l'État du Texas pour faire en sorte que ce ne soit pas le cas, pour faire en sorte que l'État du Texas en fait laisse faire comme ce qui est
parce que là vous dites c'est très intéressant parce que ça revient à un vieux truc. les États-Unis sont un État fédéral.
Ouais.
Et dans chaque État, vous avez une garde nationale, qui est la garde de l'État, qui est, dans le fond, une armée, l'armée de l'État. Elle est, et dans les années 30, 29, 30, il y avait dans l'Oklahoma, un gouverneur qui voulait pas entendre parler de Washington, qui était un local pur et dur, qui voulait pas que les Washingtoniens viennent l'emmerder. Et je sais plus quoi, il y avait Roosevelt qui voulait faire un barrage ou je sais pas quoi. Et il a fait venir la garde nationale de l'Oklahoma pour littéralement empêcher les troupes américaines de l'État fédéral de venir. Donc vous avez tout à fait la guerre civile américaine, c'était ouais. des États qui avaient décidé de se séparer des autres.
Oui.
Et donc, on en a souvent parlé ici, c'est un début de guerre civile. C'est-à-dire ouais, que comme l'État central ne fait plus son boulot, vous avez maintenant les États locaux qui disent « Écoutez, si ça vous fait rien... » Et c'est un signe de décomposition avancée.
Ah bah c'est clair, parce que faut savoir que c'est pas juste le Texas contre le reste des États-Unis. Donc là, c'est vraiment l'administration fédérale contre l'administration du Texas, sauf que le Texas est quand même soutenu par 25 gouverneurs donc républicains, sachant qu'il y a 27 gouverneurs républicains dans tous les États-Unis, donc y compris celui du Texas.
25 gouverneurs, ça fait la moitié des gouverneurs, il y a 50 États.
Oui, tout à fait. Et ça fait, bah, du coup, ça fait qu'ils sont 26, puisqu'il y a plus celui du Texas. Et donc, en fait, il y a un seul État républicain qui n'a pas soutenu le Texas, c'est l'État du Vermont, donc c'est dans la Nouvelle-Angleterre, tout au nord, nord-est. Donc c'est vraiment un État tout petit, vraiment pas très conservateur. Donc vraiment c'est un État qui n'a pas beaucoup d'importance quoi. Sachant qu'en plus de ça, il y a aussi 10 États qui ont envoyé leur garde nationale quand même aider la garde nationale du Texas. Et il y a même des volontaires, des gens, des citoyens qui sont venus des quatre coins des États-Unis pour aller au Texas et pour aider le Texas à garder sa frontière. Enfin, je veux dire, c'est vraiment un enjeu, en fait, ce qui était un enjeu purement local est en fait en train de devenir un enjeu national et un enjeu politique en général, sachant que, quand même, la population américaine est totalement du côté du Texas. Je voyais un sondage tout à l'heure qui disait que c'était les deux tiers de la population américaine qui soutient le Texas, qui soutient sa lutte contre l'immigration illégale. Il y a que 27% des Américains qui sont d'accord avec Biden pour laisser passer. Donc c'est vraiment le quart de la population américaine la plus à gauche, quoi.
Oui, c'est très étonnant ça. Et du coup, il se passe un phénomène qui est encore plus crasseux, si j'ose dire. C'est que vous savez que le Texas, c'est là où il y a tout le gaz de schiste. Oui. Et les États-Unis sont devenus le plus gros exportateur de gaz naturel après avoir fait fermer leur principal concurrent, qui était la Russie, si vous voulez. Nous, on achète du gaz naturel maintenant à 12 dollars, contre 2 où on l'achetait avant. Donc, on a fait une très bonne affaire, là, les États-Unis surtout. Donc, mais ce gaz vient en particulier du Texas. C'est là où il y a le gisement, le port pour exporter et tout. Et ce que Biden a décidé, c'est d'interdire les exportations de gaz américaines vers l'Europe pour sauver la planète. En fait, c'est pas pour sauver la planète, c'est pour faire chier le Texas.
Ouais.
Donc oui, il y a une espèce de jeu qui se fait. Ah, vous voulez reprendre le contrôle de vos frontières, ben nous on va vous empêcher d'exporter du gaz. Mais j'imagine que les exportateurs de gaz du Texas qui embarquent sur des bateaux qui sont au Texas et qui vont aller ensuite en Europe et tout, ils vont pas demander la permission du gouvernement américain. Je vois pas très bien comment ils pourraient les arrêter. Donc, ouais. On voit très bien, maintenant, Biden en est à faire du chantage sur une exportation américaine qui part du Texas pour embêter les Texans.
Ouais.
Donc,
ouais.
On arrive à des trucs de cours de création.
Oui, totalement.
C'est complètement... Ouais. Tu m'as piqué ma bille, je vais te casser le doigt de pied, quoi.
C'est vraiment petit, mais quelque part, je me dis, ça fait un argument de plus pour voter Trump pour les Américains, ou en tout cas de ne pas voter Biden. Donc je trouve que c'est au moins c'est.
Mais c'est extraordinaire parce que ce que ça veut dire aussi, c'est que bon, on nous a interdit d'avoir accès au gaz russe. C'est très bien, il sent pas bon le gaz russe, contrairement au gaz américain qui sent bon.
Ouais.
Enfin bref. Je comprends. Mais alors maintenant qu'ils nous ont interdit, ils se rendent compte qu'ils n'auront pas du gaz pour très longtemps. Ils en auront peut-être pour 5, 6, 7, 10 ans, puis après ils n'en auront plus. Donc les Américains disent, on va le garder pour nous. Parce que plutôt que de l'exporter aux Américains, on va faire venir l'industrie chimique, aux Européens, on va faire venir l'industrie chimique d'Allemagne, elle va venir s'installer chez nous, et on lui garantira des prix pas chers. C'est quand même mieux que de laisser l'industrie chimique allemande en Allemagne, puis d'exporter du gaz pour la faire tourner.
Ouais.
Là, vous dites aux gars, non, vous fermez vos usines en Allemagne, vous savez, c'est tous des bouseux,
ouais.
Et puis vous venez la mettre au Texas, et là, vous aurez du gaz pas cher, et vous pourrez faire tourner vos usines. Et donc, on se fait avoir, mais sur tous les tableaux, quoi. Donc, on nous interdit le gaz, donc l'industrie allemande va très mal, et pan, qu'est-ce qu'on fait? On dit, ben, si elle va très mal, elle a qu'à venir chez nous, quoi. Nous, on le recevra avec le plus grand plaisir.
Ouais.
Je me demande jusqu'à quand on va continuer à se faire enfler comme ça, quoi. Ben, ce que je veux dire, puis en plus, ils s'en cachent même pas. Moi, ce qui m'étonne le plus avec tout ça, c'est à quel point ils ne se cachent pas de nous enfler. Brzezinski, le Kissinger des démocrates, disait le but de la diplomatie américaine, c'est de mettre l'Allemagne en état d'obéissance et la Russie en état de déliquescence. Voilà quels sont les buts de la politique américaine. Vous me direz que ce n'est pas terrible pour les deux pays, hein. Mais moi, je suis stupéfait de voir à quel point l'Allemagne souscrit avec enthousiasme à la politique américaine de détruire l'Allemagne.
Ouais.
Ça ne vous étonne pas, vous ?
Bah, si, je suis le premier étonné. Enfin, étonné, je ne sais pas. Je pense que l'Allemagne, c'est un pays qui... En fait, n'a pas envie de re-rentrer dans l'histoire. Je pense que c'est un pays qui veut être géré potentiellement par une puissance étrangère, ça ne le dérange pas. Même si, à mon avis, ça dérange davantage les nouvelles générations qui semblent d'ailleurs vouloir voter pour l'AFD de plus en plus. Toute la plus grosse partie de la classe politique allemande, je pense, a envie d'être une entité purement économique dirigée par l'étranger.
On dit ça, puis nous, les gars qui sont... Nous, on a fait encore mieux. On s'est vendu à l'Allemagne, qui, elle, s'est vendue aux États-Unis. Alors, nous, on est vendu même pas à la puissance dominante.
Oui, en plus, oui.
On est vendu au deuxième couteau.
Oui, on est vendu du valet.
On est le valet du valet, donc on est traité pas bien, 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 bien.
Ouais.
D'où vient cette rage des Européens à se suicider?
Alors là, c'est une immense question. Je ne sais pas.
Parce que c'est...
Moi, je ne ressens pas, par exemple.
Mais au moins dans les élites, je veux dire, qu'est-ce qui... Je parle à des gens et ils me disent, mais on n'a pas le choix. On a toujours le choix de dire non. Mais pour moi, c'est ça qui est stupéfiant. C'est la génération, mettons, le baby-boomer, là, ceux qui sont avec Mitterrand et tout, ils sont des carpettes. Pourquoi ?
Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être parce que... Je sais pas, c'est une génération qui est très différente de celle qui est née pendant la guerre ou qui a connu la guerre juste avant eux. C'est une génération du nihilisme, la génération de mai 68. Donc ils ne conçoivent pas en fait le monde et les relations internationales comme rapport de force. Eux, ils ont juste envie de vivre tranquille sur leur canapé, de mourir paisiblement.
J'ai rien contre les canapés, j'en ai un ici, je fais la sieste toujours, il y a une demi-heure, je fais encore la sieste, mais c'est un peu... C'est ça, c'est moi ce qui m'étonne le plus, c'est bon, mettons qu'on essaye de s'adresser à des gens qui ont votre âge.
Oui.
Allez, si je leur dis, écoutez les gars, d'abord vous vivez dans un pays de merde,
ouais.
Qui a toujours été une merde pas possible, qui a servi à rien dans l'histoire et tout. Bon, ouais. Déjà, ça vous enthousiasme, ça. Ouais, vous sentez déjà gonflé de faire partie de cette élite.
Tout à fait.
Deuxièmement, vous leur dites, et puis vous allez bouffer moitié moins de viande dans 30 ans, et il faut que vous soyez maigre comme un coucou, parce que les insectes, ça fait pas grossir et tout. Donc, Et puis, de toute façon, on va crever de chaud, on va tous bouillir comme la grenouille et tout. Donc, vous présentez à votre génération, cette génération, présente à votre génération, un avenir, mais si vous vous flinguez pas, donc, il faudrait leur présenter un avenir qui soit amusant, ok, vous savez quoi, on va bâtir des maisons dans le haut, enfin, je sais pas, raconter l'histoire, quoi. Ouais. Mais l'histoire qu'on me raconte sur ce qui vous attend, Mais je comprends pas que vous ne flinguiez pas.
Ouais.
Oui, vous voyez ce que je veux dire, avec qu'on me raconte qui vous attend. Ouais.
Mais vous savez, il y a la...
C'est extraordinaire.
J'ai vu une étude, une enquête d'opinion là-dessus il y a pas longtemps. La moitié des gens de ma génération pensent à l'expatriation. Ce qui n'était évidemment pas le cas avant. Les Français, en plus de ça, même à l'époque de la Grande Dépression, enfin de la crise de 29, etc., même pendant le 19e siècle, pendant que tous les Irlandais, tous les Anglais, tous les Allemands, tous les Italiens, tous les Espagnols allaient aux États-Unis, c'était pas du tout le cas des Français, c'était pas du tout une terre d'émigration.
Mais non, il y avait un proverbe allemand, il disait heureux comme Dieu en France.
Ouais.
Parce que c'était le plus beau pays du monde, on bouffait le mieux, 65% des terres sont cultivables. Et on en a fait. C'est vraiment le truc des gars qui vous confiaient le Sahara et deux ans après il y a une pénurie de sable, quoi.
Ouais.
C'est vraiment les organisateurs de la pénurie de sable au Sahara, ces gars-là. Ils sont pas simplement nuls, ils sont sinistres. Au moins, si vous voulez, j'aimais bien un type comme Berlusconi, vous savez, l'italien là. Parce ouais. Au moins, il disait des conneries, il me faisait rire, quoi.
Ouais, je suis d'accord.
Je me souviens, dire une bêtise, allez, mais parce qu'il faut en dire de temps en temps, mais on lui disait, pourquoi les gens votent pour vous? Il disait, écoutez, j'ai couché avec la moitié des femmes italiennes, et l'autre moitié veut coucher avec moi. Alors évidemment que j'ai des voix, c'est... Mais que moi, j'imagine pas Macron dire ça, quoi. Mm. Parce que je veux dire, c'était gros. Ah,
c'est sûr, aujourd'hui,
mais c'était poilant.
Ouais. Aujourd'hui, on considérerait ces propos-là comme problématiques, etc. On cherche à chaque fois toujours la petite bête, le signalement de vertu.
C'était pas le problème de Berlusconi.
C'est sûr, c'était pas le cas.
Mais au moins, il était marrant.
Oui, c'est très inélégant, mais il y a une espèce de joie de vivre. On ne se prend pas vraiment au sérieux.
C'était quand même le pays de Rabelais, on disait des conneries, quoi. On disait des conneries.
Ouais, je suis entièrement d'accord.
Ce pays est en train de devenir sinistre, alors que c'était le pays où les gens venaient en France au 19e parce que tout le monde se marrait tout le temps. C'était un pays gay.
Je pense que le sentiment qui touche le plus ma génération,
oui,
je dirais que c'est la dépossession sur absolument tous les plans. Sur le plan matériel, sur le plan spirituel, sur le plan identitaire.
On vous dépossède de votre avenir.
Oui.
On vous dit, votre avenir, il est nul. Moi je n'avais pas d'idée que mon avenir était nul ou pas nul, mais je savais que j'allais le faire.
Oui.
Que je serais responsable de mon avenir. Et là, on vous dit, quoi que vous fassiez, de toute façon, vous crèverez de faim et vous crèverez de chaud en même temps. Il n'y aura pas d'eau quand il fera chaud.
Ouais.
Avec ça, vous êtes parti pour être regonflé à bloc.
Ouais.
Mais on vous dépossède de tout.
Ouais. Et je ne sais pas si on se rend compte. Enfin, moi, j'ai quand même des amis qui sont en train de se surdiplômer. J'ai un pote qui est en train de faire son deuxième master. Enfin bref, il multiplie les diplômes. C'est des bêtes et tout. Mais je ne vois aucun d'eux, en fait, atteindre une réelle prospérité et un avenir radieux en étant en France, quoi. C'est-à-dire qu'à la limite, quand c'est que vous, ça vous touche, vous dites si je veux rester là, ça me regarde. Sauf qu'ensuite, quand on parle de l'avenir, derrière, évidemment, il y a la question des enfants. Et donc, pareil, on rajoute tout un tas de problématiques parce que il y a la délinquance, il y a le problème, évidemment, de l'éducation, du prix de l'éducation, etc. Donc, en fait, on se dit autant aller ailleurs. C'est un sentiment totalement compréhensible.
C'est un truc extraordinaire parce que moi, quand j'étais aux États-Unis, j'ai été dans une université, j'aurais pu aller dans. Mais qui était pas qui était convenable, mais qui n'avait rien de spécial. Et parce que les autres étaient beaucoup trop chers, j'enseignais en même temps, ce qui me permettait d'être dans cette université. Mais les professeurs que j'avais, c'était des jeunes professeurs qui arrivaient des meilleures universités. Ils me donnaient des lectures à faire, et la bibliothèque de cette université était remarquable. Donc, si vous êtes là pendant 2 ans dans l'université, assis à une table de bibliothèque, et que vous avez les meilleurs livres sur le sujet qui vous intéresse, vous n'avez pas besoin de prof. Vous n'avez pas besoin des meilleurs profs. Mmh. Oui, vous allez dans la bibliothèque, vous y allez comme un rat et vous cherchez tout et finissez par des trucs marrants. Donc, cette idée qu'il faut aller dans une bonne université parce que les professeurs sont meilleurs, mais les professeurs meilleurs, ils ont fait des bons livres, on peut les lire, on n'a pas besoin des professeurs meilleurs. Et donc, en fait, on va dans les business schools les plus célèbres parce que comme ça, on essaie de se faire un réseau de gars qui vous permettront ensuite de savoir les belles raisons, j'en ai rien à foutre. Et donc, l'idée que l'éducation doit être chère est une idée, si j'ose dire, aussi sotte que grenue.
Ouais.
C'est vraiment stupide.
Ouais.
Si bah, on aime, on apprend.
Déjà, oui, effectivement, je peux citer un exemple. L'année dernière, en droit, c'est là où j'ai eu mes meilleurs résultats et ma méthode de travail était très simple. Au début du semestre, je prenais un gros manuel de référence par matière. Et j'allais pas en cours. En cours parce que c'était soit trop tôt le matin, j'aime pas me lever à 6h30,
soit trop tard le soir,
soit sur l'heure du déjeuner, enfin bref, à chaque fois ça m'arrangeait pas trop. Donc moi je me faisais mon emploi du temps, je me levais le matin à 9h tranquillou, 8h30 éventuellement. Je m'enquillais 3-4 heures avec le bouquin, un surligneur, machin, je regardais les devoirs en TD que je devais rendre. Je voyais quels étaient les thèmes correspondants dans le bouquin, et j'étais très bien, j'avais toutes mes références, tous les textes de loi, mon code, etc., toutes les jurisprudences, et c'est cette année-là en fait que j'ai eu mes meilleurs résultats, et j'ai dû passer 6 heures à peu près dans un amphi dans toute l'année, quoi.
Mais voilà, c'est toujours pareil. Donc si vous voulez, le travail, ça, dès que vous avez la curiosité et l'organisation qui arrive, ben vous apprenez plein de trucs. Vous apprenez plein de trucs, en particulier le droit, l'économie, tout ça. Vous n'avez pas besoin d'avoir un type qui annonce des trucs du haut d'une chaire. Quoi. Mmh. Donc, on a mis devant les jeunes des obstacles. Les études, ça coûte cher. Vous allez tous mourir de faim dans 30 ans de toute façon. Il faut que vous arrêtez de bouffer de la viande parce que les vaches, ça pète trop. Enfin bref, des trucs essentiels. Et on gâche la vie de tout le monde et plus personne ne rigole. Moi, ce qui me scène le plus, sidère le plus, c'est que autrefois, je sais pas, mais on se marrait. Enfin, on appelait ça des monomes, si vous voulez. On faisait les cons en sortant, les étudiants. Bon, moi, je jouais dans le rugby à Toulouse. J'avais une 4 chevaux. Et toute mon équipe de rugby réussissait à rentrer dans ou sur la 4 chevaux. Et on se promenait comme ça. Les flics nous arrêtaient et disaient, allez. Et donc, il y avait une espèce de joyeuse connerie. Et aujourd'hui, tout le monde est devenu... Je veux pas du tout avoir l'air du vieux con qui dit que c'était mieux à mon époque. Mais honnêtement... Je me marrais bien. Je me marrais bien. Et j'avais pas conscience de me marrer, quoi.
Ouais.
La vie était marrante.
Ouais.
On se marrait, quoi. C'était... Il y avait des conneries, c'était... Tandis que là... Ils portent tous le diable en terre.
Bah, cela dit, moi je me marre avec mes copains, mais parce que mes copains aussi ne correspondent pas du tout à ce que l'époque veut qu'on soit.
Bah, j'espère bien.
Voilà,
bien que vous allez dire des bêtises.
Quand on a des discussions entre nous, on n'est pas particulièrement progressiste, on n'est pas particulièrement féministe, particulièrement tout ça. Parce que, en fait, effectivement, si on veut se marrer, si on veut pas, en fait, être aussi rigolo qu'un croque-mort, faut être quand même dehors des limites du politiquement correct.
Moi j'ai été un jour, il y a très longtemps, encore une fois quand j'étais jeune, sur la place de la Concorde, là, avec un taxi qui me ramenait de je ne sais où. Et puis il y a une très jolie fille qui était dans une petite décapotable mini, là, vous savez.
Oui.
Qui lui fait une queue de poisson, pas possible. Donc le type ouvre sa fenêtre, enfin c'est une connerie, mais, et lui dit « Et comment tu l'as gagné ton permis ?» Et la fille s'est retournée et lui dit « Avec mon cul !» Et ça, c'était la France, quoi. C'était mignon, c'était sympa. Il m'a dit « Vous avez vu ?» Il était scandalisé, mais très content. Mais tant que la France pouvait faire ça, si vous voulez, c'était un endroit où on se marrait. Avec mon cul, c'était mignon de la part de la fille. Mais maintenant, si vous voulez, vous dites « Oh là là, qui c'est cette pétasse ?» Elle n'a pas dû... Elle doit pas aller à la messe tous les dimanches, celle-là. Mais si, peut-être, d'ailleurs, pas tout, j'en sais rien. Mais, ils m'emmerdent tellement ils s'emmerdent. Hein.
Ouais. Bah, déjà, oui, même le simple rapport à la drague, je veux dire, forcément, ça fait partie des activités de jeunesse par lesquelles on doit passer et qui sont quand même assez sympas. Et si on regarde tous les vieux films justement qui mettent en scène des gens entre 20 et 35 ans, en gros, la drague, elle se fait comme ça, quoi.
C'était naturel.
À l'emporte-pièce. Et aujourd'hui, pareil, il y a plein d'enquêtes d'opinion qui disent que les mecs ont peur de draguer parce qu'ils ont peur de se faire traiter de sexiste ou de je sais pas quoi. Aujourd'hui, la drague, elle se fait par écran interposé, par Tinder, etc. Donc, rien que ça, on aurait pu se dire, bon, ça, quand même, c'est un domaine dans lequel, qui changera jamais. Bah, même ça, aujourd'hui, ça se fait par l'intermédiaire d'une vitre, où on doit bien calculer les propos qu'on va envoyer à la gentille demoiselle, parce que sinon, ça va être.
Un jour, j'étais avec.
On risque sa carrière.
Il y avait une très jolie femme qui est arrivée dans une assemblée et qui dit « Oh, j'ai été suivi par un très joli garçon, là, vraiment. » Il marchait lentement, ce que j'ai trouvé au poil. Elle marchait tout doucement, parce que lui, il marchait encore plus doucement. Donc, mais tout le monde s'est poilé en disant « Ouais. » Donc, c'était de la drague, si vous voulez. Elle le draguait quelque part. Mais c'est pas méchant, c'était gentil, c'était pas... Ça avait rien de... On a criminalisé la sexualité et en faisant ça, on l'a rendue emmerdante et... Bon, je sais pas, on va pas se plaindre. Ouais. Mais recommencer...
Pourtant, il n'y a pas moins d'agressions sexuelles, il n'y a pas moins de viols. Enfin, voilà, non, donc non. Ça ne sécurise pour autant pas la position de la femme, quoi. Parce qu'à la limite, on peut se dire, si c'est uniquement pour éviter des excès, on peut comprendre, etc., bah peut-être effectivement derrière c'est un peu moins rigolo, mais peut-être qu'il y a aussi une minorité pour laquelle c'était certainement moins drôle aussi avant, mais même pas, c'est même pas moins dangereux pour les femmes aujourd'hui qu'avant,
donc
et qu'à voir comment elles s'habillent
donc recommencer à rigoler. Il va falloir organiser des cours de formation à la rigolade.
Bah déjà, la première chose à faire, c'est de bien sélectionner les gens avec qui on traîne, parce que c'est sûr, si vous les sélectionnez à Sciences Po ou à Normal Sup, vous n'allez pas vous poiler, hein, ça c'est sûr. Donc déjà, sélectionner ses copains, c'est la première étape, et si déjà on a ça, on peut avoir le reste.
Et puis on va rire en cachette.
Ouais.
On va se mettre dans une pièce tous ensemble et on va rigoler, puis ensuite, on sortira, on aura l'air sérieux.
Oui, voilà, très bien. C'est un beau programme.
Un beau programme.
Merci beaucoup. On va conclure cette émission là-dessus.
Oui, continue. La nécessité de rigoler.
Effectivement. Surtout, moi, je suis pas du tout un pessimiste. On parle de beaucoup d'informations qui peut-être ne donnent pas le sourire, mais je reste un irréductible optimiste malgré tout ce qu'on raconte. Il faut pas croire que tout est foutu. Il faut pas croire qu'on peut rien faire. Je pense qu'il y a toujours de la place pour un avenir meilleur.
Et les bonnes nouvelles, c'est que tous ces gars-là qui font pas d'enfants, qui sont pas gays, etc., ils vont pas transmettre leur ADN. Donc au moins, les générations suivantes sont plus gays.
Voilà. Et tenter de pas transmettre en revanche vos enfants si jamais ils sont profs, parce que parfois ils font pas d'enfants, mais ils matrixent du coup les enfants des autres. Ça c'est aussi une autre problématique. Enfin bon, on va terminer cette émission là-dessus. Évidemment, je vous remercie pour votre attention. Comme d'habitude, je vous rappelle que le livre de Charles Gave est toujours disponible sur Amazon.
Il va y avoir la semaine prochaine, donc le 7 février, le tirage de Cause, vous savez, qui est une revue dans laquelle je suis impliqué, qui va, une bonne partie de ce tirage, il y aura une série d'articles sur votre serviteur. Qui il est, ce qu'il a fait, ce que vous savez déjà d'ailleurs, mais ça fait rien. Donc surtout, vous essayez d'acheter le numéro de Causeur, vous essayez de vous abonner, et puis de Conflit et de...
Transition Énergie.
Transition Énergie, c'est les groupes, sont des gens qui travaillent énormément, qui ont, je suis pas toujours d'accord avec eux, mais ça n'a qu'une importance, qui font du travail de bonne qualité, et il faut aider les journalistes, travailleurs honnêtes, intellectuellement, à être indépendant. Donc, leur responsabilité de gens comme ceux qui nous écoutent, c'est d'aider ceux qui ont du courage à être indépendants financièrement. Et ça, vous pouvez le faire.
Tout à fait. Tout à fait.
Bon courage. Et puis surtout, on devrait faire une fête nationale du rire. Il y a une fête nationale de la musique.
Oui, c'est vrai, il y a une fête pour tout maintenant.
Une fête pour tout, une fête nationale du rire, ça serait pas mal.
Ouais, mais après, faut trouver. Est-ce qu'il y a une date qui est plus drôle qu'une autre? Je sais pas.
Premier avril.
Le 1er avril, éventuellement.
on fait une fête nationale du rire le 1er avril. Et hop, merci beaucoup.
Voilà, merci. Et puis, à la semaine prochaine pour un nouveau délit d'opinion. Merci beaucoup.